France Culture.
Je rappelle qu'au 19e siècle, le progrès s'appelait le grand mouvement. Or, au 20e siècle, il s'appelait la grande accélération. On a franchi le mur de la vitesse, d'abord le mur du son, le mur de la chaleur, etc. On a franchi, on a acquis la vitesse de libération qui permet de satelliser. On a acquis la vitesse d'échappement qui permet d'aller se balader du côté de la Lune ou de Mars. Et donc, la puissance est devenue considérable. Pas seulement au niveau atomique, mais aussi au niveau informatique et au niveau cybernétique. La puissance est redoutable.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Nous sommes en 2042 et décidément rien ne va plus en ce bas monde. Un gigantesque bug planétaire a rendu l'accès aux services numériques impossible, laissant les pauvres humains que nous sommes désemparés. Bienvenue dans l'univers délicieusement terrifiant de Bug, la série d'albums signée Enki Bilal, dont le 4e opus vient de paraître. Nous profitons de notre passage par le festival Les Utopiales à Nantes, qui met la science-fiction dans tous ses états à l'honneur pour le recevoir. C'est l'histoire de l'astronaute apatride Cameron Hobb, contaminé par une larve d'un bleu qui peu à peu envahit tout son être et tout son corps pour le meilleur ou pour le pire. Dans ce dernier tome, le pauvre Cameron semble avoir perdu la raison et être en passe de rejoindre le côté obscur de la force, tandis que le chaos général favorise la réactivation d'idéologies totalitaires. Toute ressemblance avec le temps présent n'est probablement pas fortuite. Le bleu est une couleur dangereuse aujourd'hui dans votre book club. On est ensemble pour une heure, on est ravis. Ravi, bienvenue à toutes et à tous et bonjour le public des Utopiales à Nantes. Vous êtes parfaits, merci d'être venus si nombreux nous écouter et écouter Enki Bilal ici au cœur de la cité des congrès. Bonjour à vous Enki Bilal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, bienvenue dans cette émission, on est vraiment ravis de vous recevoir. Le 4e tome de Bug vient donc tout juste de paraître, c'était hier, c'est aux éditions Casterman, c'est un récit d'anticipation dont le premier volume avait paru en 2019 et dont vous avez annoncé qu'il comporterait 5 tomes en tout. On attend de pied ferme de pouvoir avoir le fin mot de cette histoire. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais au Book Club, on a coutume de faire connaissance avec nos invités en les interrogeant sur leur rapport à la lecture, comment ça a commencé, quelle place la lecture occupe dans leur vie ou pas d'ailleurs. Comment ça a commencé pour vous cette histoire-là, Enki Bilal? Est-ce que vous vous souvenez dans quel paysage et peut-être auprès de qui vous avez appris à lire?
Alors, je me souviens très bien, mais ça s'est fait en deux temps. Le premier temps, c'était dans un pays qui n'existe plus, qui s'appelait à cette époque-là la Yougoslavie, c'était à Belgrade. Et donc j'ai appris d'abord un double alphabet, l'alphabet romain classique et l'alphabet cyrillique. C'était donc la Yougoslavie encore, donc il y avait les deux alphabets qui cohabitaient. Donc pour une petite parenthèse, après l'éclatement des années 90, les Croates ont repris le latin, ont supprimé le cyrillique. Les Serbes, ils ont gardé les deux, mais ils ont surtout mis en valeur le cyrillique. Et bon, ça dénote un esprit de coopération tout à fait louable. Donc voilà, j'apprends à lire, en fait, dans ce pays. Je découvre les premiers strips de bande dessinée là-bas, dans un journal qui était l'équivalent du Monde, mais le dimanche, le week-end, il y avait un supplément pour enfants. Ça s'appelait Zabavnik, je me souviens très bien de ça. Donc il y avait des strips de Opera Mundi, c'était beaucoup Walt Disney, donc c'était Tintin, enfin c'est pas Tintin, non justement, c'était Mickey. Donald. Moi, j'adorais Donald, vraiment je le dessinais, j'adorais ça. Et puis le départ brutal comme ça pour Paris.
Vous aviez 9-10 ans, hein?
Oui, j'avais 9 ans, exactement. J'avais 9 ans et je quitte Belgrade avec ma mère et ma sœur, donc pour rejoindre le père qui était déjà en France. Et donc là commence une autre aventure d'une nouvelle langue. Et je pense que l'apprentissage de cette langue a été déterminant parce que j'étais séduit par le français réellement. ça m'a plu. Enfin, je...
Vous l'apprenez réellement à 9 ans. Vous le connaissiez pas
non,
du tout
pas
avant.
Pas du tout. Non, okay. J'avais vu un ou deux livres qui traînaient, des trucs phonétiques. Enfin bon, pour enfants quoi.
Mais c'était quoi vos langues maternelles? Pardon, je vous coupe. C'était, mais pour revenir, vous disiez j'ai appris à lire dans 2 alphabets. Ça me frappe en vous écoutant parce que je me dis tiens, il y a une première chose graphique du coup dans l'apprentissage de la lecture pour vous. C'était quoi du coup les langues maternelles vraiment?
Ben c'était là, c'était le serbo-croate. Alors. En fait, c'est assez drôle parce que vous me posez la question parce que finalement, le serbo-croate, le serbe, c'est du cyrillique au départ, et le croate, c'est du latin.
Ouais, d'accord.
J'avais jamais fait le lien, moi, sur les deux alphabets. Merci de me.
Mais je réalise toute mon ignorance en vous écoutant. Je ne le savais pas.
Bah, j'ignorais
moi aussi. Nombre de gens.
J'ignorais aussi qu'on pouvait faire serbo-croate et dire il y a une écriture et l'autre.
Ouais.
Pour moi, c'était un ensemble. Alors évidemment, on apprenait les deux. Et donc tous les enfants à cette époque-là, aujourd'hui encore, hein, je pense, même en Croatie, savent lire les deux, quoi.
Ouais, ouais.
Et donc, mais la langue, c'est la même. C'était le serbo-croate. Donc aujourd'hui, là encore, il y a une séparation. Donc les Croates sont allés chercher des mots anciens de leur tradition, et les Serbes aussi, enfin pour se démarquer, quoi, le truc classique. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est le serbo-croate, et ensuite l'arrivée en France, c'est le français que j'apprends à l'école. À l'école avec ma sœur, on devient très vite les meilleurs élèves en français.
C'est ce que j'allais vous demander, ça a été un apprentissage facile pour vous.
Ouais. Ouais. Vraiment facile, parce qu'on avait envie, mon père voulait qu'on apprenne le français. Il avait besoin de nous aussi, parce qu'il y parlait très mal. Il avait besoin qu'on parle bien le plus vite possible. Et donc voilà, ça se passe, c'est là que je découvre la littérature. Alors, au départ, c'est... C'est pas encore d'ailleurs. Si ça, il y a la bande dessinée qui apparaît très vite. J'avais un camarade d'école qui voyait que je m'intéressais au dessin, que je dessinais bien, et il m'apportait des Spirou, des Tintin, les hebdomadaires. Donc je découvrais ça. Je me disais mais c'est incroyable ce pays où il y a une langue qui est magnifique et en même temps on peut raconter des histoires avec des dessins. Je me suis dit mais je suis tombé au bon endroit. Et en fait c'est comme ça qu'est née cette envie de devenir dessinateur de bande dessinée. Je pense que ça date de cette période-là. Et donc voilà, les premiers émois, ils viennent de vraiment de livres. Alors c'est du Club des Cinq, c'est des trucs comme ça. Enfin
c'est de la littérature pour les enfants.
Pour les enfants.
Et que vous trouvez où vos parents vous donnent accès à cette littérature-là ou ça passe par les bibliothèques, ça passe par l'école?
Ça passe par le marché. Le marché de la Garenne-Colombes, je sais pas, c'était le samedi et le mercredi.
Et donc, il y avait des
livres d'occasion. Collection verte, collection rose, etc. Donc, c'est comme ça que je découvre les livres en français. Puis ensuite, c'est Jules Verne. Et puis, Jules Verne, c'est là que j'apprends peut-être aussi le décalage du réel, quoi. Quelque chose qui parle d'une réalité fantasmée. Donc, on est au bon endroit pour évoquer l'imaginaire.
Absolument.
Je cite ça parce que c'est vrai, vraiment, c'est Baudelaire. Alors ça m'a fait passer dans une autre dimension. Lorsque je découvre Les Fleurs du Mal, d'abord le titre m'intrigue. Et je découvre des poèmes, notamment Une Charogne, qui est un poème je ne comprends pas tout, donc j'essaie de comprendre. Je vais voir le dictionnaire. Enfin, on se sert beaucoup de dictionnaires à ce moment-là. Et donc, je découvre la puissance et le côté très, très violent que peut avoir une langue. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Au lycée, évidemment, il y a les travaux sur la littérature classique, traditionnelle, Victor Hugo, Balzac, etc. Et puis, arrive très vite aussi... Jules Verne sert de tremplin, on va dire, pour découvrir Ray Bradbury. Ensuite, c'est Philippe K. Dick, c'est Roger Zelazny, c'est Frank Herbert, c'est Isaac Asimov, grand auteur russe. Je pars complètement. Et Lovecraft, qu'on n'oublie pas. Lovecraft, qui est un auteur très, très... Alors, personnage absolument... abject dans la vie, c'est un antisémite notoire, un personnage vraiment très très laid, mais sa littérature me fascine et provoque même des envies graphiques, de couleurs, des choses comme ça. Voilà.
Je reviens un tout petit peu en arrière et on va reparler bien sûr de tous ces auteurs qui ont beaucoup compté pour vous, Enki Bilal, mais vous disiez quand vous arrivez en France à 9 ans, assez vite comme ça, le français, la langue française exerce sur vous une sorte de pouvoir, hein, de fascination. Est-ce que vous sauriez décrire de quoi elle était faite cette fascination ou cette attirance ou ce plaisir de l'apprendre ?
Alors c'est difficile. Je pense qu'il y a une envie de bien faire au départ. Vraiment, avec ma sœur, il y a une vraie émulation. On répète des choses ensemble. Il y a l'accent, tout ça. Il faut maîtriser ça. Et je pense qu'un élément important, c'est qu'on a été extrêmement bien encadré aussi par les instituteurs, l'instituteur de l'époque. Alors, qui nous ont tout de suite dit, mais vous faites des efforts, ça se voit, ça se sent, vous faites des gros progrès. On a eu des compliments, mais sincères. On a senti la sincérité de ces compliments. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui motive en plus, vraiment.
Est-ce que vous pensez que ça change la qualité d'une lecture dans une langue, le fait que ce ne soit pas votre langue maternelle? Est-ce que vous pensez que ça rend sensible à la musicalité de la langue, à des choses qui sont de l'ordre de la forme?
J'en suis parfaitement convaincu, absolument. D'abord, je dis que c'est une chance de découvrir une langue sur le tard. Alors, où ça passe pas, si ça peut arriver, une langue rébarbative qu'on n'arrive pas à maîtriser, je sais pas, après ça, on rejette. Mais là, ça s'est extrêmement bien passé, et donc, il y a eu cette... C'est une vraie rencontre, donc... ce qui est très important aussi, c'est que je pense que j'ai senti la richesse du vocabulaire, et que ça m'amenait, quelque part, à imaginer... Et c'est là que je rencontre peut-être cette envie de dessiner. Enfin, c'est assez mystérieux, mais
Il y aurait un lien entre la découverte de la langue française comme langue étrangère, l'attrait vers les littératures de l'imaginaire le dessin.
Absolument. Ouais. Et tout à l'heure, je citais Lovecraft, qui a écrit des livres très, c'est du fantastique, c'est très obsessionnel, avec un vocabulaire particulier, avec le mot indicible. C'est un mot qui m'a marqué, par exemple. Le mot indicible, vous n'allez pas me croire, mais je crois qu'il y a 10 ans à peine que j'ai compris d'où venait le mot indicible, c'est-à-dire indicible, vraiment.
Ne peut se dire.
Ne peut se dire. Je n'avais pas compris ça. Pourquoi ? Parce que indicible, j'avais compris le sens et que je trouvais que la musicalité du mot allait avec le sens. Et c'est la définition, si j'en donnais une aujourd'hui, ce ne serait pas ne peut se dire, mais c'est quelque chose qu'on n'oserait pas dire, on ne peut dire. On ne peut ni dire, ni oser dire. C'est-à-dire que c'est bien pire. Et donc, ce mot exerçait comme ça une grande fascination sur moi. Et donc, c'est ça que je comprenais aussi, que la couleur... Il y a une nouvelle qui s'appelle « La couleur tombée du ciel ». Donc, Lovecraft ne la décrit pas, parce qu'il dit que d'une couleur, c'est indicible. Donc, déjà, cet indicible-là, moi, je commence à y chercher une couleur. Et je trouve une espèce de teinte grisâtre, etc. Et le bleu, il vient peut-être de là aussi, un peu.
Et le grisâtre et le bleu, on va avoir l'occasion d'en reparler. C'est vraiment des tonalités qui sont au cœur de votre travail. Vous parliez donc de toutes ces littératures, de l'imaginaire, Lovecraft, Philippe K. Dick, Asimov. Qu'est-ce que vous trouvez là quand vous êtes un petit garçon ou un jeune homme, à votre avis, qu'est-ce qui fait que ça rend la lecture intense pour vous à ce moment-là de votre existence ?
Alors, je pense que c'est vraiment la notion de la vision du futur. La vision du futur, je dois dire que j'ai beaucoup de mal avec Proust. Vous comprenez pourquoi ?
Qui se tourne plutôt dans l'autre sens.
On comprend pourquoi. Même si Proust, c'est magnifique. Voilà. Mais il y a cette vision du futur, ça va avec ma passion très d'adolescent pour le cosmos, pour les étoiles.
L'espace.
Je connais l'espace, je m'intéresse à ça. Je suis fasciné par la lutte soviéto-américaine pour la conquête de l'espace. Gagarine. Alors, à ce moment-là, comme j'arrive d'un pays de l'Est, et que mes petits camarades ne jurent que par l'Amérique et les États-Unis, je me vois obligé de soutenir le bloc de l'Est.
L'autre côté.
On me dit, mais tu viens d'un pays où il pleut, il fait toujours froid, les gens sont malheureux. Je dis non, pas du tout, etc. Donc, j'étais supporter de Gagarine, des Russes, etc. Même si je savais à ce moment-là que c'était moyen comme régime, j'avais un peu compris à Belgrade. Mais donc voilà, tout ça m'amène à une espèce d'imaginaire et d'ouverture aussi sur l'aspect géopolitique, finalement, qui se répercute dans le monde occidental où j'arrive, et qui me rappelle ce que je ressentais à gamin à Belgrade. Parce qu'il y avait une pression aussi, les soviétiques étaient là, à côté de chez nous, on était dans une maison qui était en face d'un grand parc de Belgrade, Et l'immeuble quasiment mitoyen, c'était des Russes. Alors, on s'en méfiait, parce que Tito avait dit non à Staline juste à la fin de la guerre. Et donc, les liens étaient extrêmement tendus. Et donc, voilà, on regardait les Russes avec méfiance. Donc, il y avait quand même toute cette ambiance-là.
Mais donc, c'est intéressant ce que vous dites à Enki Bilal, parce que ça veut dire que, contrairement à une idée reçue, peut-être, ce que vous trouvez dans cette littérature-là, de l'imaginaire ou de la science-fiction, peu importe comment on l'appelle, c'est bien le contraire d'une sorte d'échappatoire du réel ou de quelque chose qui nous emmènerait très loin du réel. C'est au contraire dans ces littératures-là que vous trouvez un écho à ce que vous, à une situation politique qui est celle de l'époque. Hein. On est bien avant la chute du mur et que vous avez connu de manière très intime, d'une certaine manière.
Non, vous avez raison, parce que c'est vraiment pas un échappatoire. Enfin, je me disais pas, je vais me changer les idées. C'est pas du tout ça. Au contraire, ce que j'aimais, c'était l'excitation, la réflexion, enfin, sans être conscient de ce qu'est une réflexion quand on met, mais c'est une espèce de stimulant que je ressentais à imaginer ces mondes. Et alors, c'était souvent lié à, je comprenais que c'était forcément lié à notre monde à nous aussi. C'est-à-dire que la plupart des auteurs, par exemple, citent Asimov, c'est quand même une lecture assez complexe, il fallait que je m'y reprenne. Tout ça, c'est des auteurs aussi qui parlent de leur monde à eux, sous couvert de soit pseudo-imaginaire. Donc, vous avez raison, c'est vraiment pas, je recherchais pas l'évasion.
J'ai lu que vous n'aimiez pas beaucoup, cependant, qu'on associe votre travail à vous, à ce terme qui est celui de la science-fiction. Pourquoi ?
Non, c'est parce que c'est vrai qu'il y a eu une période où on classifiait, quoi. Voilà, on disait, ah ben nous, il fait de la science-fiction. Donc, il y a eu toujours cette espèce de condescendance. Alors que moi, je considère qu'en, il y a des auteurs de science-fiction très nombreux qui sont nettement supérieurs à des auteurs qu'on célèbre dans certains quartiers parisiens.
C'est plutôt le regard méprisant sur la science-fiction que vous n'aimiez
temps.
Pas.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis après, je disais, ben non, la science-fiction, ça veut plus dire grand chose, même si c'est un peu faux quand même, hein, parce qu'on vit dans un monde de science-fiction. On y est. Alors il y a toujours la science-fiction du présent, il y a toujours l'après, mais là on est au bord d'un truc qui va être vraiment radical, l'intelligence artificielle. Là on risque d'arriver à presque à une forme de fin de rapport. L'humain, il arrive au bout de ses limites, et là il y a quelque chose qui l'attend. Donc ça, c'est impressionnant. Par contre, il reste, et ça, moi, je continue à rêver là-dessus, ça, j'aime bien, c'est une évasion sur la possibilité d'une rencontre avec une entité extraterrestre. Là, c'est quand même sympa.
Ce serait sympa. Est-ce que la lecture, elle continue d'occuper une place importante dans votre vie aujourd'hui, Enki Bilal ?
Alors, oui, mais alors de manière tout à fait différente. Et alors, c'est... On perd quelque chose lorsqu'on pratique soi-même...
L'écriture de livres.
Donc très vite, vraiment, je pense que j'ai fait un plein tant que je ne travaillais pas, tant que j'étais pas auteur moi-même. Et après, on sélectionne, on cherche sur les thèmes, on cherche des essais, on lit beaucoup, mais différemment. Je ne suis plus vraiment un lecteur disponible pour le roman. Je regrette, mais c'est malheureusement le cas. Il m'est arrivé très souvent de rester pendant une demi-heure au soleil. Sur une page. Et là, je dis, mais je suis là depuis une demi-heure, parce que j'étais parti dans... Une phrase avait déclenché un truc...
Vous lisez davantage pour nourrir votre propre travail.
Inconsciemment, oui.
On va plonger dans ce travail et dans cette série qui s'appelle Bug Enki Bilal. Et pour nous y conduire, je vous propose qu'on écoute une chanson du rappeur Riles, chantée en partie en japonais. Pour ceux et celles d'entre vous qui, comme moi, ne parlent pas cette langue, j'en traduis quelques paroles. « La bataille ne finit pas, maintenant sauve mon esprit. » Personne ne sait avant que cela ne se termine, mais ce soir, jusqu'à la fin du monde, sur mon chemin, je vais essayer de ne pas perdre la tête, je ne mourrai pas de l'intérieur, sauve mon esprit. On y a entendu comme un écho avec le récit que nous compte le tout dernier tome de votre série, Enki Bilal. On écoute Save My Mind. Kitsune himakoko ni mihenai kono teki yoru
の顔が出て逃げたりはしない時間だけが足りない戦い終わらない今こそ Say my mind Say my mind 誰も知らない For my head これが終わる前 But tonight この夜の果てまで On my way
Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Résumons les épisodes précédents. En 2041, un grand bug planétaire généralisé a paralysé tous les systèmes numériques, plongeant la planète dans le chaos. Dans le même temps, l'astronaute apatride Cameron Hobbs a lui aussi été infecté par un bug d'un autre type, une sorte de bestiole bionique venue se loger dans son cou, par la grâce ou la malédiction de laquelle la couleur bleue l'envahit peu à peu. Détenteur de toute la mémoire du monde, Hobbs devient l'objet d'une traque. Tous veulent le retrouver, gouvernement des pseudo-démocraties en place ou dictature de tout poil, géant de la tech ou mafieux criminel. Mais lui veut surtout retrouver sa fille, Gemma. Capturé par la tsarine qui règne sur la Nouvelle-Russie, Cameron parvient à s'échapper et aux côtés de la doctoresse qui depuis le début veille sur lui, il réussit à atteindre l'île de Lampedusa. L'insecte bionique s'extrait de son corps, mais l'astronaute est contaminé, une entité maléfique semble avoir pris possession de son esprit. C'est dans cet état de confusion extrême que nous retrouvons le héros du quatrième et avant-dernier tome de votre série Bug, Enki Bilal, qui vient tout juste de paraître aux éditions Casterman et qui nous vaut l'occasion de dialoguer avec vous aujourd'hui ici, en direct et devant un public fourni au festival Les Utopiales à Nantes. Je voudrais partir non pas de cette narration, je viens essayer de tenter de retracer le fil général, très très compliqué, je peux en témoigner. Mais je voudrais partir, pour commencer, de la toute première case de ce quatrième volume. C'est une case entièrement envahie d'aplats, de peinture épaisse. On voit les marques du pinceau, du noir, du gris, mais surtout du bleu et du rouge, des masses de couleurs dont on comprend qu'elles correspondent à une sorte de vision intérieure du personnage, pour le dire rapidement. On a vraiment l'impression, Enki Bilal, que pour ce nouvel opus, pour ce quatrième album, vous êtes parti non pas d'une narration, mais précisément de ces visions et peut-être même aussi de cette matière de la peinture.
D'une abstraction même, quasiment. Mm. Effectivement, vous aviez raison, vous avez raconté. Ce que vous avez raconté, c'est un peu l'aspect mécanique du récit. Et comme j'arrive au quatrième volet et que le cinquième sera la fin, j'avais besoin d'arriver à un stade narratif assez complexe, mais qui prépare le 5. Alors, vous allez dire que ça va pas nous aider à comprendre. Mais ça veut dire simplement que je délaisse le côté mécanique classique du récit pour installer le combat qui se joue dans le personnage de Hobbs. Et c'est le combat binaire. Ça aussi, ça va nous ramener à quelque chose qu'on connaît, un monde qu'on connaît, une espèce de binarisme. Et là, donc, effectivement, les couleurs dans cette abstraction, cette première image abstraite, il y a le rouge et le bleu qui vont s'affronter. Alors, le bleu, dans cette histoire-là, le bleu va devenir le bien et le rouge va être le mal. Et donc, là, Hobbs est entre les mains du mal parce que, à la fin du 3, l'épisode 3, il a recraché Lui, ça n'est pas rendu compte, forcément, mais il a recraché le bug. Alors, le bug, c'est un double sens, parce qu'en anglais, bug, ça veut dire bestiole, insecte, mais ça veut dire bug, en français aussi, ça veut dire problème numérique, bon.
Plantage,
c'est le mot. Et donc voilà, il y a la bestiole, il la recrache, et cette bestiole, ceux qui l'ont lu, est avalée par une murène. Une murène
c'est très,
normale.
Très gros poisson qui ressemble un peu à des anguilles, mais en plus gros.
Voilà, exactement. C'est vraiment un prédateur des mers. Et il est avalé, ce bug. Donc cette bestiole venue de l'espace est avalée. Qu'est-ce que je fais, moi, de ce personnage qui perd la mémoire? Je décide à la fin qu'il va perdre la mémoire à partir du moment où il n'a pas le bug du bien. Ça veut dire que le mal commence à le... Parce que c'est le mal qui a chassé le bien. Enfin, c'est ça, c'est le principe du bien et du mal. Et donc, je me retrouve piégé moi-même par mon récit. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est vivant. Et donc, j'ai du temps. Comme je fais, j'ai du temps pour réfléchir, pour faire évoluer la chose. Et donc, je décide que dans le 4, il faut que le bien reprenne le contrôle du personnage. Sinon, on va vers le chaos absolu et il faut s'en sortir. Et donc, comment je récupère le bien alors que le bien a été avalé par une murène?
Est-ce que ça vous arrive pardon, excusez-moi, je vous laisse
juste... Non, oui.
Non, finissez,
je fais juste
coupé.
Devenir toutes les murènes de la région bleue contaminées. Et donc la doctoresse Junia se dit, pour sauver ce pauvre Hob, je vais essayer une espèce de vaccin, je vais prélever du sang de la murène bleue qu'elle a réussi à pêcher, en gros, et je vais l'injecter à Hob et on va voir ce qui se passe. Et c'est le principe du vaccin. Voilà.
Si je vous entends bien, Enki Bilal, ça veut dire que la manière dont vous construisez cette série, c'est pas exactement avec un scénario prédéfini, un synopsis qui vous dirait où vous allez aller du volume 1 au volume 5. Ça veut dire que ça se construit au fur et à mesure de l'écriture et du dessin. Comment vous faites? Enfin, je veux dire, quand même, au point de départ, pour cette série-là, c'était quoi la toute première idée ou le petit chemin que vous aviez malgré tout? Parce que malgré tout, on l'a entendu aussi, il y a une sacrée histoire. Donc comment ça se passe? Comment on s'en sort?
Alors, le départ, oui, j'ai été séduit par l'idée du bug, un bug, ça m'est arrivé, moi je nageais dans une piscine en Corse, et tout d'un coup je sens contre ma cuisse un truc qui bat, un truc lourd, je me dis, merde, c'est mon portable, j'avais laissé mon portable dans ma poche. Aussitôt je le ressors, il a commencé à chauffer déjà, il était mort. Je reste pendant 4-5 jours sans... Et cette addiction, tout d'un coup, je me sentais pas du tout victime de l'addiction, mais je l'étais. Et là, je pense que je me dis, mais si ça arrivait à l'humanité entièrement. Donc l'idée, elle est forte, tout s'arrête complètement. Un seul homme garde à la mémoire du monde, malgré lui, hein, c'est pas de sa faute, hein, il a été choisi ou pas.
Oui, parce que c'est la caractéristique de Cameron Hobb au début de la série, il possède toute la mémoire numérique et plus
le public,
affinité de tout.
Votre téléphone portable et tout le public qui est là, il a les numéros. Il a le numéro des codes secrets de Poutine, il a tout, tous les avions en vol, il a tout, il peut tout faire, voilà, il a tout. Bon. Et donc... Ça, c'est le point de départ. La fin, je la trouve, parce que je me lance pas dedans sans être sûr d'une fin. J'ai une fin qui est solide et qui a peu évolué. Donc, elle est en place. Après, c'est un voyage.
Le 21 décembre 1999, l'architecte et philosophe Paul Virilio, penseur des mutations du monde contemporain et de la vitesse notamment, était l'invité de la matinale de France Inter à quelques jours d'un passage à l'an 2000 au cours duquel on redoutait déjà un gigantesque bug informatique. Stéphane Paoli l'interrogeait à ce sujet. C'est le journaliste qu'on entend d'abord dans cette archive. On l'écoute.
C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous nous sommes mis en situation de créer un accident qui aurait pour terrain d'application l'ensemble de la planète.
C'est la cybernétique, c'est-à-dire que jusqu'ici, les accidents concernaient soit l'énergie, soit les transports. Je pense bien sûr au navire, le Titanic ou au train qui déraillait. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place, avec la révolution de l'information, la cybernétique. C'est-à-dire que si je voulais faire un mot très simple, je dirais 19e siècle, c'est la standardisation industrielle. Le standard, la standardisation est l'image clé de la révolution industrielle. 21e siècle, c'est la synchronisation cybernétique des actions et des réactions.
Cybergouverné, attention.
Et donc cyberwar, cybergouverné, etc., etc., etc. Ce qui veut dire que quelque part, le feedback devient un phénomène global, mondial, et que l'interactivité est à l'information, ce que la radioactivité est à l'énergie. On est devant des phénomènes nouveaux qui concernent tout le monde au même moment. Le bug de l'an 2000 a déjà eu lieu, si on compte les milliards de dollars utilisés pour le parer, y compris dans l'armée.
Mais quel paradoxe tout de même que cette société est tellement puissante, à la merci quoi, du petit cafard dans l'ordinateur, puisque c'est de là que vient le mot bug. Y aurait quoi ? C'est le petit caillou dans la chaussure, le scrupule qui pourrait tout bloquer aujourd'hui ?
Non, c'est la puissance. C'est pour ça que j'ai parlé de vitesse au début. On ne peut pas séparer progrès et accélération. Je rappelle qu'au XIXe siècle, le progrès s'appelait le grand mouvement. Or, au XXe siècle, il s'appelait la grande accélération. On a franchi le mur de la vitesse, d'abord le mur du son, le mur de la chaleur, etc. On a acquis la vitesse de libération qui permet de satelliser. On a acquis la vitesse d'échappement qui permet d'aller se balader du côté de la Lune ou de Mars. Et donc, la puissance est devenue considérable. Pas seulement au niveau atomique, mais aussi au niveau informatique et au niveau cybernétique. La puissance est redoutable.
Paul Virilio, à quelques jours du bug de l'an 2000, c'est drôle qu'il prononce le mot de cette façon, comme quoi le terme n'était peut-être pas d'utilisation si courante encore en 1999, à propos de cette puissance redoutable dans laquelle la cybernétique nous a fait basculer. Ça vous parle, ce que dit Paul Virilio dans cette archive, Enki Bilal ?
Mais bien sûr, d'autant plus que je l'ai connu très bien, Paul Virilio, on était amis, et Paoli aussi, Stéphane Paoli aussi. Voilà, on a fait un documentaire ensemble sur ces thématiques-là. Donc, bien sûr que ça me parle. Il parlait de l'accélération. Il y avait une superbe exposition à la Fondation Cartier à Paris sur l'accident. C'était l'accident selon Paul Virilio. Donc, il avait fait un travail assez incroyable là-dessus. Et il disait une chose tout à fait juste et magnifique, tellement évidente, c'est que chaque nouvelle invention de l'humanité renferme en elle le côté sombre, négatif.
Voilà. Et vous, ce que vous travaillez dans Bug, c'est le côté sombre et négatif de ce qu'on n'appelait pas encore d'ailleurs à ce moment-là, ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies numériques, pour le dire vite.
Exactement. Et donc, on est soumis à ce flux, à cette accélération. Et c'est pour ça que l'idée m'a plu, l'idée du bug, parce qu'il y a un arrêt, il y a un coup d'arrêt. Mm. Et c'est pour ça que je travaille en toute tranquillité, c'est-à-dire je déroule l'histoire en sachant où je veux aller. Et alors là, je vais y aller, c'est le 5, j'ai déjà commencé, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai fini le 4, j'ai envoyé le dernier fichier à mon éditeur. Et le lendemain, j'attaquais le 5. Mais pas, ça ne commencera pas par une peinture comme là, ça commencera différemment, ça ne commencera même pas par un dessin. J'ai envie moi-même de faire exploser littéralement.
Ça ne commencera pas par un dessin. Alors là, j'avoue que je m'arrête un instant en vous écoutant et je me dis, mais dans une bande dessinée, si ça ne commence pas par un dessin, par quoi ça peut commencer ? Trois petits points, on verra.
Je vous laisse je trouver.
En fait,
je veux vraiment, parce que vraiment, j'entre dans le vif du sujet. C'est-à-dire que j'ai déroulé l'histoire un peu classique, l'homme poursuivi, l'homme qui a toute la mémoire du monde, qu'on veut absolument rattraper, etc., etc. Sa fille qui veut retrouver, sa fille est en danger. À la fin du 4, il y a une chute un peu étonnante pour elle, et je sais comment la sauver. Et donc le cinquième volet sera une forme de, y compris pour moi, forcément d'abord pour moi, une mise à plat du pourquoi de ce sujet, et surtout du pourquoi de tous ces questionnements, y compris ceux de Paul Virilio sur l'accélération. Cette accélération, en l'arrêtant, en disant stop, tout s'arrête, même l'intelligence artificielle est à l'arrêt avec un bug généralisé. Donc qu'est-ce que nous on devient ? Notre mémoire, c'est le sujet principal. Nous, on a tout confié au numérique, moi le premier.
Qu'est-ce qu'on devient si on en est séparé ? C'est vrai que c'est l'un des plaisirs dans l'ouverture de la série, dans le premier volume, de voir le bordel généralisé, le chaos dans lequel on serait entraîné, et bien sûr dans lequel on peut très facilement se projeter, nous, êtres humains de 2025. On voit très bien dans quel chaos on serait plongé. Et c'est vrai que c'est intéressant de vous entendre parler de l'arrêt, parce que, notamment dans le premier tome, il y a tout un jeu aussi sur le plan graphique, avec des personnages qui sont en position d'arrêt. Je pense notamment à ce très beau travail sur la lévitation de certains personnages. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est le blocage lévitationnel ?
C'est des gens en général nantis qui sont pleins de fric, qui ne savent pas quoi faire pour, pour s'exciter, se créer des sensations, et donc il y a un moyen de s'injecter quelque chose. J'explique pas comment, mais en tout cas on peut l'éviter au-dessus. Et donc il y a des gens qui sont bloqués au-dessus de Central Park notamment. Il y a un monsieur très chicose, apparemment, il est coincé là. Il est en lévitation, il peut pas descendre. Alors ça pose des problèmes. Évidemment, après il faut organiser de la vie autour de ça. Il y a même dans le second volet, il y a un mariage à Rome entre deux personnes qui sont en lévitation aussi. Donc voilà, je m'amuse un peu parce qu'il y a beaucoup, enfin il y a de l'humour aussi là-dedans, évidemment, parce que raconter une histoire pareille, c'est le chaos, c'est pas possible, hein, imaginez. Donc j'ai évincé tout ce qui était dramatique, je l'ai quand même noté avec des mots. Il y a quand même des millions de morts.
Oui, c'est assez terrifiant.
Mais c'est terrifiant, mais je le montre pas, je m'attarde pas dessus, et simplement je me concentre sur les gens qui sont en vie. Alors donc voilà, c'est jubilatoire aussi. Il faut se faire.
Il y a une dimension ludique aussi, c'est ça que.
Absolument. Il y a aussi le fait qu'on a perdu les correcteurs d'orthographe, parce que qu'on la délaisse l'orthographe, de toute façon, c'est déjà acté aujourd'hui. Donc il y a des fautes d'orthographe partout.
Enfin, sur les journaux notamment. Paul Virilio dans l'archive qu'on avait entendu disait l'interactivité est à l'information ce que la radioactivité est à l'énergie. Ça c'est une dimension très présente dans la série Bug aussi. Les journaux occupe une place fondamentale, et on voit à quel point la perturbation de l'accès à l'information libre est très perturbante. Et vous faites avancer le récit aussi sans arrêt par des unes de journaux. Alors certes, il y a des fautes d'orthographe parce que plus personne sait écrire sans les correcteurs, mais malgré tout, c'est comme ça aussi qu'on a accès à l'information. Au Book Club, on a l'habitude de faire une place à nos auditeurs, à nos auditrices dans l'émission qui chaque jour posent une question à notre invité. D'habitude, cette question, elle nous est envoyée justement par des voies numériques, mais aujourd'hui, au joie, on a un auditeur face à nous. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là avec nous ici à Nantes. Jérémy, vous avez lu Bug et vous vouliez poser une question à Enki Bilal.
Oui, alors vous parlez avec brio de la perte du numérique et le fait que ça puisse changer les pensées des gens, voire à l'extrême. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez dès le début, ou c'est au fur et à mesure des tomes que vous arrivez à distiller tout ça?
Qu'est-ce qui a disparu? J'ai pas compris, parce que le son, j'avais pas le son là.
Les courants de pensée au niveau du numérique.
Les courants de pensée au niveau du numérique.
Avec la perte du numérique, il y a des gens qui arrivent à avoir des pensées différentes, voire extrêmes. Est-ce que c'est des choses que vous avez pensées dès le début, ou vous les mettez au fur et à mesure dans vos tomes?
Parce que c'est vrai que dans la série, ce chaos numérique, il donne aussi lieu à tout un tas d'affrontements idéologiques. Il y a beaucoup de personnages qui sont animés par une sorte de fascination, par des idéologies, qui rappellent les totalitarismes du XXe siècle.
Mais ça, c'est un peu le. Il fallait que je maintienne cet élément-là, parce que le monde change. Je montre pas le chaos, mais je me pose forcément des questions sur ce qui va se passer, par exemple, entre les États, ce qui va se passer, y compris, j'ai commencé avec l'Élysée, il y a quand même des séquences dans l'Élysée, mais très vite, je me suis dit, c'est pas le sujet. Et donc, j'ai gardé ça comme un élément de rappel du réel, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. À un moment, je me suis dit, les petits pays, et je le dis d'ailleurs dans une des coupures de presse, par exemple en Afrique, les petits pays pauvres, qui avaient des armements traditionnels anciens, des vieux chars pourris et des vieilles mitrailleuses, ils vont envahir les pays qui avaient des bombes atomiques nucléaires, il n'y en a pas en Afrique, mais qui avaient des armements sophistiqués numériques. C'est-à-dire que le numérique qui a disparu assèche complètement et rend les positions, y compris géopolitiques, différentes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'imaginer, mais c'est pas le sujet. Je les mets comme ça dans des... L'apparition de la tsarine, par exemple, en Russie, c'est parce que aussi je me suis dit, il faut donner une place, d'ailleurs, dans tout Bug. Je pense que le pouvoir est, vous avez remarqué, aux mains des femmes. C'est les femmes qui ont le pouvoir.
C'est les femmes qui sont les personnages dans lesquels on a l'impression qu'on peut, envers lesquels on peut maintenir une forme de confiance. Voilà.
Absolument. Donc, y compris, Hobbes est entouré, il y a sa fille qu'il recherche, mais il est entouré par une femme médecin avec qui il peut y avoir une relation amoureuse, mais qui est compliquée, et y compris la jeune Fatma qui découvre en Libye. Donc, tout ça, c'est bon, là il y a une stratégie, on va dire, pour rester quand même dans le plausible et pour ne pas déconnecter complètement du réel. Mais très vite, c'est pour ça que le 4 est un pivot qui va m'amener vers autre chose et vers cette explication finale.
Je venais, nous venions, d'échouer sur une île presque déserte nommée Lampedusa. J'ai tout naturellement réactivé les systèmes d'eau et d'électricité de l'hôpital à l'abandon depuis le milieu des années 2030 et les bombardements par les ligues fascistes du Nord 2037. J'étions devenus un dieu pour les quelques centaines de migrants cloués sur l'île. L'hôpital, fonction filtrage donc, avait été construit pour réguler l'immigration afro-asiatique de cette période. C'est l'un des textes qu'on peut lire dans le tout début de ce quatrième tome de la série Bug, Enki Bilal. C'est la voix intérieure du personnage qu'on entend, celle de Cameron Hobb, qui se trouve littéralement habité par cette étrange présence qu'il sent en lui et qui lui vaut de parler dans ce mélange de première personne du singulier et du pluriel. Voilà, j'étions devenu, ça c'est vraiment une trouvaille géniale. Alors que dans la première partie de la série, le personnage avait plutôt l'allure d'un héros positif, au début en tout cas, possible rempart contre les maux de ce chaos du moment. Ici, vous jouez à en faire un personnage effrayant. Si on regarde la couverture de l'album ou si on l'ouvre comme ça au hasard, il y a tout un jeu comme ça avec son regard qui est habité par une espèce comme ça de lueur rouge qui est très très effrayante. Est-ce que c'était aussi le jeu de ce nouvel opus, cette bascule du personnage principal?
C'est ça, c'est la lutte du bien contre le mal. C'est dans son corps que ça se passe. Alors, mais vous l'avez très bien lu d'ailleurs, le jeu et tout ça, c'est un plaisir de jouer avec les mots. Et c'est vrai que c'est une façon de montrer comment tout d'un coup on perd le contrôle de soi-même, quoi. Le langage, la langue, elle permet ça. Je ne suis pas sûr que... Si, en anglais, ça doit être jouable aussi, mais j'aime à croire que le français
peut-être
permet...
Peut-être un peu moins facilement,
J'aime à croire que le français le permet vraiment bien. Je regardais quand je verrai les traductions, comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est... Donc c'est vrai que là on bascule dans quelque chose de violent, hein, parce que c'est en couleur, donc c'est vraiment le rouge contre le bleu. Il y a l'abstraction, c'est ce premier tableau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est même des choses que lui ne peut pas imaginer, parce qu'il est confronté au mal absolu qui a accès aux quatre coins de l'univers, quelque chose qui dépasse même l'humain, quoi. Donc c'est des choses que moi j'ai essayé de faire passer. Ça passe ou ça passe pas, mais en tout cas, c'est le principe du jeu, quoi.
Ça passe. Il y a effectivement cette opposition très binaire entre le rouge et le bleu et le mal et le bien, de manière presque caricaturale.
Là,
c'est binaire. Mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont marqués, au contraire, par une forme d'ambiguïté. C'est-à-dire que souvent, on fait la connaissance d'un personnage, on le met dans le clan des gentils, dans notre tête, et puis assez vite, on se rend compte que c'est pas le cas, et inversement. Ça produisait quoi pour vous, cette confusion-là?
C'est précisément pour que tout soit pas binaire. Moi, je suis contre le binarisme, je suis contre le manque de nuances, et il faut perturber le binaire, voilà. Et pour perturber le binaire, il faut lui apporter de la matière cérébrale, il faut se poser des questions un peu.
On a commencé à en parler, le traitement des couleurs joue un rôle de tout premier plan dans cet album, comme toujours chez vous, Enki Bilal. Je vous propose qu'on écoute le peintre Paul Delvaux à propos des couleurs, justement. Il était interrogé dans une émission de France Culture en 1978.
Les couleurs ont beaucoup d'importance, quoi qu'elles n'en aient pas l'air. C'est souvent gris, et on peut même dire que je ne suis pas coloriste, ce qui est peut-être vrai dans une certaine mesure. Donc j'emploie les tons que je sens, n'est-ce pas? Et je sens très fort les tons. Seulement, je ne les sens pas tels qu'un peintre peut les sentir, si on veut. Je ne mets pas des rouges et des bleus et des verts, n'est-ce pas? Je mets des tons qui sont en rapport avec ce que je veux exprimer. Ils sont souvent des demi-teintes, qui sont des gris, qui sont des bleus légers, etc., qui sont des tons qui ne sont pas voyants.
J'emploie les tons que je sens, je mets des tons en rapport avec ce que je veux exprimer, dit Paul Delvaux dans cette archive. Enki Bilal, est-ce que c'est des formulations que vous reprendriez à votre compte?
Oui, avec d'autres mots, sans doute, mais je considère que les couleurs ont une forme de grammaire, c'est un langage, et effectivement, ils font partie de la narration. Ça s'interpénètre, c'est ça que j'aime bien. Il y a le dessin, bien sûr, mais il y a l'écriture. Et parfois, l'écriture elle vient supprimer un dessin. C'est quand même très, très étonnant. Enfin, ça m'est arrivé quand même. Tout d'un coup, il y a un dessin, je dis ça va passer par le dessin, et puis finalement non, il y a une phrase qui arrive, il y a la musique aussi des mots. Je suis très sensible à la musique des mots. Le fait d'apprendre sur le tard une langue, je pense que ça fait comprendre la musicalité des mots. Par exemple, je pense à Jean Echenoz, j'adore la musicalité de quoi qu'il écrive, c'est formidable. J'adore cette musique. Donc ça, c'est important. Et la couleur, c'est pareil. Et la couleur, elle-même, elle peut produire des sons. J'ai l'impression que la couleur dans un album peut produire un son. Voilà.
Ça, c'est le fameux poème de Rimbaud. Glissant vers le noir, le bleu prend la consistance d'une tristesse inhumaine. Il devient un approfondissement infini. C'est quoi cette passion, cette obsession du bleu chez vous, Enki Bilal? Est-ce que c'est la couleur de la mélancolie pour vous? La phrase que j'ai citée est extraite du dernier volume de Buck.
Absolument, bien sûr. C'est très étonnant. Évidemment, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on me la pose à chaque fois.
Oui, j'imagine.
Pas toujours de la même manière. Donc, en général, c'est pourquoi le bleu. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je dirais quoi? Le bleu, je l'utilise selon les atmosphères, selon les récits, selon les thèmes. Par exemple, le bleu, il est inquiétant. Mais il est positif. À l'arrivée, il sera positif, puisque là, il est contré par le rouge. Donc, on va comprendre que le bleu, c'est quand même... Cette tâche, finalement, c'est une forme de protection. J'anticipe sur le 5. Bon.
Teaser, comme on dit en mauvais français.
Oui, voilà. Oui. Et par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Tico Moon. Michel Piccoli, qui jouait un des rôles principaux, ça se passait sur la Lune, mais il avait une tâche bleue. Et ça, cette tâche-là, c'est une malédiction. Et tous ses fils avaient la même tâche, sauf un qui espérait, il ne l'avait pas. Il ne l'avait surtout pas. Donc, il était fier de ne pas l'avoir. Sauf à la fin, il l'a eu quand même. Bon, pas de chance. Mais en tout cas, c'est une autre signification. Ça peut être tout à fait dramatique. Ça peut être une maladie, c'est plus toxique, donc c'est négatif. Et puis, ça peut être le bleu de l'espoir, le bleu du ciel. C'est une des couleurs les plus belles qui soient, le bleu. Il y a des tas de nuances. Donc il n'y a pas, mais c'est ça qui est, voilà, c'est que le bleu, il c'est un élément de langage, voilà. Peut-être plus que les autres couleurs, donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle plus.
Et je réalise en vous écoutant que très souvent, en fait, vous l'associez au dessin, à la peinture ou au filmage des corps. C'est intéressant parce que le corps, il est évidemment hyper présent dans cette série-là, mais comme dans tout votre travail. Bon, là, ça prend toute cette dimension bionique, je ne sais pas exactement comment la qualifier, hein, tous ces êtres qui sont implantés de technologie, qui donnent au récit une dimension particulièrement effrayante aussi. Mais c'est intéressant de se dire que c'est une couleur que très souvent vous associez au corps. Est-ce que c'est tout simplement parce que ça fait partie des couleurs qu'en général on n'a pas sur la peau, à part peut-être dans les yeux, ou est-ce qu'il y aurait une autre raison à votre avis?
Écoutez, c'est justement pour lui donner une vraie personnalité, c'est-à-dire que c'est pas décoratif, c'est pas pour faire joli. De la même manière, je suis pas du tout un dessinateur de costumes, je fais très peu. Donc l'anecdote, j'essaie d'aller le moins possible dans l'anecdote, de plus en plus, je pense. Donc le bleu, il a oscillé sur le corps, dans des endroits du corps qui sont cachés en général par des vêtements, ça peut être simplement une épaule ou le dos, etc. C'est que ça a une fonction et que ça dit des choses, pas seulement du personnage. En général, le personnage est victime, puisqu'il porte ça comme une marque. Donc voilà, c'est pour rompre avec l'idée de décoration, du côté décoratif, voilà, et que ça a du sens. Voilà, je reviens un peu à ce que je disais sur la fonction narrative de la couleur.
J'ai réalisé en vous écoutant tout à l'heure qu'en fait, tout simplement, le cinquième tome, il allait peut-être s'ouvrir par un texte, en fait.
Ça
m'est venu. Voilà. Hein, j'ai mis un petit moment à percuter, mais
vous qui vous intéressez pas au livre, ça.
Voilà, c'est parce qu'on lit pas souvent des livres ici au Book Club. On a compris que cette série, elle donne à penser le monde contemporain, en réalité, hein, avec cette projection dans un futur très proche. Hein, je l'ai dit, 2041, 2042. Vous ne nous emmenez pas si loin loin que ça dans le temps. Je vous propose qu'on écoute un autre philosophe qui nous a beaucoup aidé à comprendre ce qui nous arrive, c'est Bruno Latour.
On a toujours parlé de changement radical. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas des changements radicaux, c'est des changements de détail, maintenant, dans lesquels nous sommes engagés. Et ces changements de détail n'ont pas de philosophie politique très précise. Ça veut dire que c'est pas comme dans la grande théorie révolutionnaire du passé, un mouvement, disons, qui va subvertir toute une civilisation. C'est au contraire une espèce d'involution. C'est pas une révolution, c'est une involution, et qui porte sur des détails. Et ces modifications dont on parle en architecture, dont on parle dans tous les domaines, sont des modifications qui sont des habitudes de vie, de fermer les lumières, des choses auxquelles on n'est absolument pas préparé, pour lesquelles en tout cas le modernisme, toute cette espèce d'attitude vis-à-vis du progrès et du mouvement et de la révolution et même de la pensée, je dirais, ne nous prépare pas. Et c'est ça qui est intéressant dans l'écologie politique, c'est une révolution de détail et pas une révolution de totalité.
Bruno Latour, qui intervenait ici sur France Inter, c'était en 2007, et parlait de l'écologie politique, hein, de la façon dont ça peut passer, cette involution et non pas cette révolution, dit-il, et qui porte sur des détails. Cet archive, pour vous interroger sur deux aspects, Enki Bilal, peut-être sur l'importance du détail, justement, dans toute cette histoire, dans cette longue épopée qu'est Bug. Sur ça d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui compte particulièrement pour vous, ou avec quoi vous avez joué, vous avez pris du plaisir à inventer dans cette série-là les petits détails de l'histoire et de la vie des personnages?
Alors, il y a des... D'abord, comme la chose est très étrange, hein, c'est radical, un bug qui arrive, tout ça met le monde complètement à plat. Donc, c'est essayer de garder la normalité. En fait, bizarrement, c'est ça. Ce qui m'a beaucoup plu au début, c'était de penser à cette jeune fille qui connaît pas son père, quasiment pas. Et donc ça m'est apparu comme quelque chose de salubre. Moi, je m'accrochais à ça parce que je trouvais que ça faisait du bien, qu'elle ait envie de voir son père et que lui, quand il réalise qu'il a envie de voir sa fille. Donc c'est le contraire, en fait. C'est l'absolu contraire de ce qu'on vit en situation. Donc ça, ce sont des petits détails, en plus, auxquels moi, j'étais pas vraiment habitué, parce que cette espèce de réalisme comme ça du quotidien, j'ai très peu traité ça. Donc ça, c'était c'est pas ces détails-là que vous attendiez peut-être, mais ceux-là, ils étaient...
Non, mais c'est intéressant, puis ça nous permet de mentionner... Ça nous permet de mentionner que c'est aussi Bug, et peut-être même avant tout simplement l'histoire de la relation qui jusqu'ici est manquée, mais peut-être qu'on va avoir une résolution entre un père et sa fille. C'est aussi l'histoire d'un père, en fait, tout simplement.
Tout à fait, parce que lui, il est cosmonaute au départ. Il est parti en mission, c'est son métier. Il est parti en mission sur Mars, et tout d'un coup, ça tourne mal sur place. Et le vaisseau revient avec que des cadavres à bord et qu'un seul survivant, lui. Voilà. Et il a été compatible. Tous les autres sont morts, ils ont reçu des bugs, hein, tous. Mais lui, il est seul à avoir reçu des bugs et à avoir survécu. Ça veut dire que lui, il était compatible. Pas de bol. Ou si, puisqu'il est vivant et que finalement, il va sauver le monde.
Et j'espère qu'on comprendra dans le tome 5 pourquoi tout ça se passe, parce que jusque-là, vous nous laissez dans une grande incertitude.
Ouais. Et je ne sais pas tout moi-même encore.
Est-ce que, une dernière question en un mot, Enki Bilal, vous nous disiez que vous travaillez sur le dernier tome, vous ne savez pas encore exactement comment tout ça va finir, mais est-ce que vous avez aussi toujours un coup d'avance, c'est-à-dire est-ce que vous savez aussi déjà sur quelle histoire, sur quelle série peut-être, vous partirez après Bug?
Je sais, oui.
C'est toujours comme ça, vous avez besoin de savoir l'étape d'après.
Oui, c'est vraiment toujours comme ça. Mais là, je n'ai pas fini 5. Hein. En général, ça arrive plus tard. Mais là, je sais, j'ai commencé. En fait, je travaille depuis longtemps par grands thèmes universels sur la survie de l'humain, sur la planète. C'est des grands thèmes. Avec moi, vous n'aurez pas d'autofiction, par exemple.
Bah, qui sait ? Il ne faut jamais dire jamais, paraît-il. Le Book Club continue. Et à cette heure-ci, chaque jour dans le Book Club, nous mettons en lumière des événements liés à la littérature et aux livres, puisque nous sommes aujourd'hui en direct du festival Les Utopiales à Nantes, qui fête son 25e anniversaire cette année, qui s'ouvre aujourd'hui et dure jusqu'au 2 novembre à dimanche. On en profite pour zoomer sur quelques événements de la manifestation. Vous dire d'abord que le prix Utopial 2025 a été décerné à Philippe Battaglia pour La Dernière Tentation de Judas, livre qui a paru aux éditions La Talente. Bravo à lui. On aura, on l'espère, j'espère l'occasion d'en reparler dans l'émission. Quelques événements à ne pas louper ici à Nantes. Demain vendredi, une série de tables rondes et conférences en fin de matinée, un hommage à Heyerdahl, l'un des auteurs majeurs de la SF francophone, 10 ans après sa disparition. Comment son univers engagé a-t-il essaimé dans nos imaginaires? Hommage avec 3 de ses proches, Sarah Doak, Gilles Francescano et Marion Mazorik. En parallèle, un autre thème abordé ici même sur la scène Chaillol. Pas très drôle, l'ASF a de rares et notables exceptions près. La science-fiction littéraire est souvent empreinte d'une forme d'esprit de sérieux. Est-il si difficile de conjuguer comédie et science-fiction? En discuteront Philippe Battaglia justement, mais encore l'autrice de BD Léa Muraviec et Célia Pelluet. Et puis à 18h45, demain toujours, une table ronde sur l'alliance de la poésie et de la science-fiction. Et puis samedi, une rencontre avec Christelle Dabos, qui est autrice de littérature de l'imaginaire, de science-fiction, mais aussi une autrice jeunesse à laquelle on est aussi très attaché dans cette émission. Ça, ce sera samedi 1er novembre, donc à 11h45. Si vous passez dans la région, si vous vivez près de Nantes, venez assister à ces rencontres. Et si vous n'êtes pas là, sachez que France Culture consacre plusieurs de ses programmes au festival Ces Jours-ci, l'émission Mauvais Genre de François Angelier, ce samedi notamment. On renvoie bien sûr vers l'intégralité de cette programmation sur le site de l'émission.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et à 7h06, à 15h55, chaque jour dans le Book Club, on joue à trouver dans la musique, de la musique dans les livres. Si vous, cher public, repérez au gré d'une lecture un passage dans lequel figure une citation musicale, prenez-le donc en photo. Envoyez-nous cette photo via le compte Instagram de l'émission ou à l'adresse lebookclub@radiofrance.com. On pioche dans cette petite base de données de citations musicales qu'on se constitue pour se quitter chaque jour en chanson. On doit la trouvaille du jour à Mathieu, qui nous a envoyé un extrait du premier roman de Louise Brovès. Ça s'appelle « La Reverdie », ça avait paru en 2023 aux éditions La Mer Salée. Si l'on me dit « demain », je pense tout de suite « demain, c'est loin », titre d'une immortelle chanson d'Ayam que connaissent ceux de ma génération qui furent à l'école buissonnière du Micro d'Argent. Je pense aussi « l'espoir est une insulte au présent », phrase d'Albert Camus que je cite de mémoire, non moins musicale que celle d'Ayam, et que j'écrirais sur ma porte si j'étais encore l'étudiante gracile en Doc Martens rouge et collant vert, assénant à ses camarades syllogismes nietzschéens et chiffres insoutenables sur la crise écocidaire.
Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit un plus, jamais je ne l'ai revu. Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné frère, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, poussent, poussés au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger, en deux temps trois mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend, tour de bras, on fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI, ici, le rêve des jeunes c'est la Colt GTI, sur Vette Takini, tomber les femmes à l'aise comme Manny sur Scarface. Je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi, je suis plus malin, lui il crève à la fin, la fin, justifie les moyens, 4 à 5 ou malsain, on tient jusqu'à demain, après on verra bien, on marche dans l'ombre du malin, du soir au matin, tapis dans un coin, couteau à la main, bandit de grand chemin, y'en a pas.
Un très grand merci Enki Bilal d'avoir été avec nous ici à la Cité des Congrès de Nantes, en direct du Festival Les Utopiales. Le 4e opus de votre série Bug vient tout juste de paraître, comme les 3 précédents chez Casterman. Merci au super public du festival qui était venu vous écouter en nombre aujourd'hui. Merci aux équipes techniques de France Culture qui nous ont permis de retransmettre l'émission ici à Nantes. Sandrine Brécha, Thomas Robin, Virginie Lorda, Julien Calvas, Léo Prougène et Virginie Noël. Merci aux équipes du festival pour leur accueil. À la réalisation, c'était comme toujours Vivien Demeyer. Un grand merci enfin à toute l'équipe du Book Club et tout particulièrement aujourd'hui à Cyril Marchand et Alexandra Laï-Begovic qui poursuit la conversation sur le compte Instagram de l'émission.